plus 15. Jusqu'à 15h, Edwige Chevrillon sur BFM Radio.
Un clan, une légende qui se termine avec la mort du dernier des clans Kennedy, et du moins de cette génération, en l'occurrence Ted Kennedy. François Bujon-Létang, bonjour.
Bonjour, Edwige Chevrillon.
Vous connaissez très bien les États-Unis, vous avez été ambassadeur de France aux États-Unis. Vous avez eu l'occasion de rencontrer Ted Kennedy, j'imagine.
Oui, je l'ai souvent rencontré au Sénat, notamment dans le cadre de ses activités au Sénat.
Alors, c'est un peu une légende, ce clan Kennedy. Ted Kennedy avait une place un peu à part, ne serait-ce qu'il n'a pas pu être élu président des États-Unis à cause de cette fameuse affaire de Chipakwedik. Est-ce qu'il aurait une chance, à votre avis?
C'est difficile à dire, parce que d'abord, on ne peut jamais réécrire l'histoire, comme chacun sait. Ensuite, parce qu'il a montré, après Chipakwedik, mais avant même Chipakwedik, qu'il avait une profonde hésitation à se lancer dans une course présidentielle. C'est d'ailleurs très curieux, ce destin qui a été celui de Ted Kennedy. Le père, Joseph Kennedy, disait que Edward, Ted Kennedy, était le plus brillant de ses fils. Il a toujours dit cela. Et naturellement, après la disparition tragique de John Kennedy, puis de son frère Bob, tout le monde a pensé que Edward Kennedy aurait été un candidat presque naturel à la présidence des États-Unis.
Bien sûr.
Il y a eu l'incident de Chipakwedik qui, effectivement, a fait dérailler ce qui aurait pu être...
On va rappeler donc la mort d'une jeune femme qui l'accompagnait et qui l'avait laissée dans la voiture après l'accident.
Oui, il a tardé à prévenir la police et à appeler les secours. Ça a été une affaire qui a fait dérailler sa carrière politique pendant quelques temps, mais peut-être même sans Chipakwedik, ne se serait-il pas présenté à la présidence. Il a toujours dit qu'il ne voulait pas s'y présenter, il a choisi de ne pas avoir de destin présidentiel, et en quelque sorte, Chipakwedik a scellé ce destin. Mais peut-être n'aurait-il pas voulu se présenter de toute façon. Il a voulu rester ce qu'il était, un sénateur très influent, le senior sénateur du Massachusetts, dont le poids, la réputation, la compétence étaient universellement reconnus et qui a joué au sein du Parti démocrate un poids très important jusqu'à ces tout derniers mois.
Absolument, notamment avec l'élection de Barack Obama qui l'a soutenu très tôt.
Voilà, alors vous avez tout à fait raison de le souligner, il a joué un rôle très important parce que si quelqu'un incarne l'establishment du Parti démocrate, c'est bien Ted Kennedy et bien entendu toute la...
Ce qu'on appelle les WASP.
Oui, les WASP, les patriciens, ces familles patriciennes de Nouvelle-Angleterre. Et il n'est pas inutile de rappeler que les Clinton et Hillary Clinton, quand elle a lancé sa campagne présidentielle, comptaient beaucoup sur l'appui de l'establishment du Parti démocrate. Et le fait que Ted Kennedy ait choisi d'appuyer Barack Obama pendant les primaires et assez tôt, avant beaucoup d'autres des grands ténors du Parti démocrate, a porté un coup très rude à la campagne d'Hillary Clinton et a au contraire été une aide puissante pour la campagne de Barack Obama, dont il a été un supporter très chaleureux tout au long de la fin de la campagne.
Avec la mort du dernier des Kennedy de cette génération, parce qu'en plus sa sœur aînée est morte hasard de la vie
il y a une dizaine de jours,
oui, donc c'est vraiment toute cette génération s'est éteinte. En plus, la génération actuelle, elle aussi a été frappée par le destin avec la mort de John Kennedy. Il n'y a plus de grandes figures dans cette famille.
C'est toute la légende de cette histoire. Il y a encore la fille du président John Kennedy, Caroline, dont on a pensé un moment qu'elle pourrait jouer un rôle politique, mais effectivement, il n'y a plus personne de la même stature dans la nouvelle génération des Kennedy. Eunice Shriver, dont vous venez de parler, la sœur aînée du président Kennedy, était une femme tout à fait remarquable, extrêmement respectée. Elle était l'épouse de Sergeant Shriver, qui a été ambassadeur des États-Unis à Paris et vice-président. Et après elle, voici Ted disparu, cette génération-là a disparu, et avec elle, probablement, la légende de la famille Kennedy qui va reculer dans le passé.
C'est un cas, François Bujon-Létang, c'est un cas incroyable, hein, cette famille Kennedy, cette légende Kennedy. Comment vous l'expliquez? C'était le père, le terrible Joe Kennedy?
Le terrible Joe Kennedy qui a fondé cette dynastie,
incroyable,
qui
était
évidemment fort bien représentée par toute une série de personnages brillants, hommes et femmes, parce que moi j'avais personnellement beaucoup d'admiration pour Mrs. Shriver, mais d'avoir produit, si j'ose dire, Ted, John, Bob, c'est tout à fait extraordinaire, d'autant que tous ont eu des destins politiques de tout premier plan. Je crois qu'il faut rappeler que Ted Kennedy a été, comme sénateur, quelqu'un d'extrêmement influent. Et sur le plan politique, sa disparition va être un coup pour Barack Obama.
Alors, surtout en ce moment où il est quand même un peu sur la sellette, Barack Obama, avec cette réforme du système de santé qu'il veut imposer. C'est une voix qui va lui manquer, celle de Ted Kennedy.
C'est une voix qui va lui manquer. Et surtout, c'est une influence, une capacité de lobbying au Sénat qui va beaucoup lui manquer. Parce que le sénateur Kennedy, il s'est occupé, bien sûr, d'affaires étrangères et a joué un rôle important dans un certain nombre de sujets, notamment la Libye, le Kirby, l'Iran, etc. Mais il était spécialiste des questions sociales. Et il s'est toujours spécialisé au Sénat sur ces sujets. Dans le domaine de la réforme du système de santé, il disposait d'un poids et d'une autorité particulière. Et c'est ce qui rend cette disparition politiquement significative, si vous voulez, dans le court terme.
Mais en même temps, d'autres disent peut-être qu'il pourra jouer sur cette fibre-là, le président américain, en disant, en mobilisant autour de la mémoire de Ted Kennedy, qui a toujours été très progressiste dans ses idées.
Absolument. La mémoire et l'autorité morale de Ted Kennedy, je suis sûr que Barack Obama l'invoquera très souvent, Ted ne lui ayant jamais marchandé son appui.
Pourquoi, tiens, enfin, l'actualité nous rattrape un petit peu, François Bégeon des temps, pourquoi cette réforme du système de santé est-elle si difficile? On sait que déjà les Clinton s'y sont cassés les dents. Pourquoi est-ce que c'est si difficile? C'est contraire à l'esprit américain, l'esprit individualiste, à la société américaine?
Oui, en un sens, mais d'un autre côté, c'est un sujet qui est brûlant au fil des années, puisqu'il y a, selon les années, entre 40 et 50 millions d'Américains qui ne disposent pas du tout de couverture de santé. C'est donc un sujet très important, puisque le système actuel est inéquitable. Il est notoirement inéquitable.
D'égoïsme américain, qu'est-ce qui se passe?
C'est surtout la méfiance à l'égard de ce que les républicains appellent « big government », c'est-à-dire d'un gouvernement interventionniste et bureaucratique, et la foi dans les systèmes privés. C'est quelque chose qui est consubstantiel à l'esprit américain. Or, vouloir une réforme du système de santé et vouloir garantir une couverture maladie à tous les Américains suppose, bien entendu, une implication très très forte de l'État. Et c'est cela qui hérisse largement les républicains et un certain nombre de démocrates conservateurs. Vous avez raison de rappeler que l'administration Clinton s'y est cassée les dents. Elle avait voulu, elle aussi, s'occuper de la réforme du système de santé pendant la première année du mandat, premier mandat du président Clinton. Celui-ci avait même confié ce dossier à son épouse, qui n'était pas encore sénateur. Et ça avait été un échec retentissant. Il faut, en effet, non seulement convaincre les milieux politiques, mais convaincre les milieux de l'industrie de la pharmacie, les milieux médicaux, les professionnels de santé.
Un pronostic, vous qui connaissez très bien les États-Unis, un pronostic, Barack Obama va réussir à faire passer cette réforme là où les autres ont échoué?
Il faut savoir quel sera le prix du succès. Voilà, et je pense que les marchandages commencent à s'esquisser au Sénat. Si vraiment le président Obama veut obtenir une réforme du système de santé d'ici la fin de l'année, comme il l'a dit, il va lui falloir commencer à négocier très sérieusement avec les opposants et probablement réduire ses ambitions initiales.
Alors, justement, qu'est-ce qui est le plus important? C'est de l'emporter, même si, comme vous dites, le résultat final risque d'être amoindri par rapport aux ambitions initiales?
C'est difficile. Il faut que ce soit une réforme significative, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus des millions ou des dizaines de millions d'Américains en dehors du système de protection sur la santé. Il faut donc quelque chose de significatif. En même temps, il faut probablement trouver un compromis, renoncer à une solution tout étatique et continuer de faire confiance aux assurances privées, tout en élargissant, bien entendu, le domaine de couverture. C'est une ligne de crête difficile.
Toute dernière question, donc avec la mort du patriarche du clan Kennedy, Ted Kennedy à 77 ans, est-ce que c'est une page de la politique américaine qui se tourne, qui s'est tournée?
Oui, c'est une page qui se tourne. Les Kennedy ont joué un rôle très important dans la vie politique américaine depuis une quarantaine d'années. C'est effectivement une page générationnelle qui se tourne. Mais bien entendu, la vie continue, le Parti démocrate continue d'être puissant dans l'État du Massachusetts, le sénateur Kennedy sera certainement remplacé par un autre sénateur démocrate, et le Massachusetts devrait logiquement rester un fief démocrate.
Un fief démocrate à défaut d'être un fief Kennedy. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, François Bégeon-Létang. Je rappelle que vous avez été ambassadeur de France aux États-Unis.